Le passage que je prendrai ce matin vous est proposé par un lectionnaire commun aux églises catholiques et protestantes. Et c'est un passage qui a fait couler beaucoup d'encre. Je pense que vous le connaissez tous. Il se trouve dans la lettre de l'apôtre Paul aux chrétiens de Rome, au chapitre 13. Et nous lirons les 7 premiers versets. Romains 13, versets 1 à 7, et je lis dans la Nouvelle Bible Second. Que chacun soit soumis aux autorités établies, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu, et celles qui existent ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi celui qui résiste à l'autorité s'oppose à l'ordre de Dieu, et ceux qui s'opposent s'attireront un jugement sur eux-mêmes. Les chefs, en effet, ne sont pas à craindre quand on fait le bien et quand on fait le mal. Veux-tu ne pas craindre l'autorité, fais le bien et tu auras son approbation, car elle est au service de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas pour rien qu'elle porte l'épée. Elle est en effet au service de Dieu pour faire justice, pour la colère contre celui qui pratique le mal. C'est pourquoi il est nécessaire d'être soumis, non seulement à cause de la colère, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez des impôts, car les gouvernants sont attachés au service de Dieu pour cette fonction même. Rendez à chacun ce qui lui est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, la taxe à qui vous devez la taxe, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Vous l'avez déjà tous entendu, ce passage. C'est un passage qui a fait couler beaucoup d'encre. Il a souvent été utilisé pour exiger une obéissance absolue des croyants face aux autorités politiques. Notamment quand nous vivions dans une société beaucoup plus verticale qu'aujourd'hui. Puis c'est un texte qui a posé plein de questions, notamment suite à la Seconde Guerre mondiale, parce qu'il avait été abondamment utilisé par le régime nazi pour obtenir l'obéissance des églises, et notamment protestantes. Le rapport église et pouvoir politique est abordé de diverses façons dans le Nouveau Testament. Il y a ce texte de Romains 13 et son commandement à se soumettre, mais il y a aussi toute une série de textes qui décrivent l'Église en résistance face à l'autorité. On va d'abord s'arrêter sur cette série-là, quelques textes qui décrivent l'Église en résistance, puis ensuite on reviendra plus longuement sur Romains 13. Il y a d'abord la résistance de l'Église de Jérusalem face aux autorités juives qui veulent empêcher la prédication des apôtres et qui veulent interdire qu'on parle de Jésus. On va voir deux épisodes. Le premier, c'est au chapitre 4. Après la guérison d'un infirme, Pierre prêche l'évangile. Il est avec Jean. Et puis, il est arrêté et mis en prison par les autorités. Le Sanhédrin, qui représente à la fois l'autorité politique et religieuse, se réunit et veut empêcher les apôtres d'annoncer la bonne nouvelle. Acte 4, versets 17-18. Pour que cela ne se répande pas davantage dans le peuple, défendons-leur avec des menaces de parler à qui que ce soit en ce nom-là. Ce nom-là, c'est Jésus. C'est Jésus. Alors, ils les appelèrent et leur enjoignirent formellement de ne plus parler ni enseigner au nom de Jésus. C'est clair. Quelle est la réaction des apôtres? Je lis les deux versets suivants. Pierre et Jean leur répondirent, « Est-il juste au regard de Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, à vous d'en juger ? Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Et comment cette opposition se termine-t-elle ? Ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, sans trouver aucun moyen de les punir à cause du peuple. Tous en effet glorifiaient Dieu pour ce qui était arrivé, c'est-à-dire le miracle d'une personne qui avait été guérie et qui était depuis des dizaines d'années en train de mendier devant le temple. Donc non seulement les apôtres ne vont pas obéir au Sanhédrin, Mais une fois relâché, il raconte à l'Église ce qui est arrivé. Alors l'Église va prier. Voici un extrait de la prière de l'Église et la réponse de Dieu à cette prière. En vérité, contre ton saint serviteur Jésus que tu as fait Christ, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et tes décisions avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes esclaves de dire ta parole avec une entière assurance. Et tends ta main pour qu'il se produise des guérisons, des signes et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Et quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis de l'Esprit Saint et ils disaient la parole de Dieu avec assurance. Non seulement ils n'obéissent pas, mais ils prient et Dieu va les fortifier pour qu'ils continuent à désobéir. Les apôtres prient pour surmonter leur peur face aux menaces. Donc Dieu leur répond par une expérience renouvelée de l'esprit pour les fortifier intérieurement afin qu'ils gardent qu'ils aient de l'assurance dans la prédication. Chapitre suivant, acte 5, deuxième épisode de la confrontation entre le Sanhédrin et les apôtres. Pierre est en train de prêcher. Et je lis le texte au chapitre 5 à partir du verset 17. Alors, rempli d'une passion jalouse, le grand prêtre et tous ceux qui étaient avec lui, c'est-à-dire le parti des Sadducéens, intervinrent. Ils mirent la main sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais, pendant la nuit, l'ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison. Il les fit sortir et leur dit « Allez, tenez-vous dans le temple et dites au peuple toutes les paroles de cette vie. » Ayant entendu cela, ils se rendirent au temple dès le matin et se mirent à enseigner. Le grand prêtre et ceux qui étaient avec lui arrivèrent, ils convoquèrent le Sanhédrin et toute l'assemblée des anciens des Israélites et envoyèrent chercher les apôtres à la prison. Les gardes, à leur arrivée, ne les trouvèrent pas dans la prison. Ils s'en retournèrent et firent leur rapport en disant « Nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et les gardiens à leur poste devant les portes, mais quand nous avons ouvert, nous n'avons trouvé personne à l'intérieur. » Lorsqu'ils eurent entendu cela, le commandant du temple et les grands prêtres, perplexes à leur sujet, se demandaient ce qu'il adviendrait de cette affaire. C'est alors que quelqu'un va leur annoncer « Les hommes que vous avez jetés en prison se tiennent dans le temple et ils instruisent le peuple. » Alors le commandant et les gardes allèrent les chercher et les amenèrent sans violence, car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Et quand ils les eurent amenés, ils les firent comparer devant le Sanhédrin. Le grand prêtre les interrogea. Ne vous avions-nous pas donné l'ordre formel de ne plus enseigner en ce nom-là ? Vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Vous êtes décidé à faire retomber sur nous le sang de cet homme. Pierre répondit, ainsi que les autres apôtres, il faut obéir à Dieu plutôt qu'à des humains. Le Dieu de nos pères a réveillé Jésus que vous avez éliminé en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme pionnier et sauveur pour donner à Israël un changement radical et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de cela. Et donc les apôtres aussi refusent de se soumettre aux autorités. Deuxième épisode. Puis il y a une série de textes sur lesquels qu'on ne va pas lire ici, mais qui se trouvent dans le livre de l'Apocalypse, où, dans un langage codé, on voit comment l'Empire romain persécute les chrétiens, car ils refusent, entre autres, de s'associer au culte de l'empereur. Si on commence à lire, c'est trop compliqué à expliquer. Donc. Mais en tout cas, là, il y a une résistance claire et des persécutions et des gens qui vont en prison ou qui meurent parce qu'ils refusent d'obéir à l'autorité impériale. Revenons à Romains 13. Il est suffisamment clair dans le Nouveau Testament qu'il n'est pas question d'obéir aveuglément et sans réfléchir. Et notamment de résister quand on veut imposer, quand l'État veut imposer ses propres convictions religieuses et interdire à l'Église d'obéir à ce que Jésus lui commande. Alors qu'est-ce qu'on fait avec notre texte de Romains 13 ? Comment le comprendre ? Je propose quelques remarques. Le principe même de l'autorité politique est voulu par Dieu. Dieu a voulu qu'il y ait des autorités politiques. Comme dit Paul, elles sont instituées par Dieu. Mais Paul situe cette autorité politique par rapport à l'axe du bien et du mal. L'autorité politique est voulue par Dieu pour réguler la vie sociale, et notamment pour punir ceux qui font le mal et approuver ceux qui font le bien. C'est dans notre texte. Pour le dire autrement, l'institution politique participe à la limitation du mal dans la société. Elle est un outil de Dieu pour limiter ce mal. Nous le savons, la vision biblique de la société est une vision tragique. Le mal est présent dans le monde. Et pas seulement à cause de la pauvreté ou du manque d'éducation. Il y a une présence profonde du mal qui s'exprime aux divers niveaux de la vie sociale. Il n'y a pas que du mal, il y a aussi du bien, de la bonté, de la solidarité. Mais il y a un mal qui résiste et dont l'humanité n'arrive pas à se débarrasser par elle-même. Un exemple très parlant, c'est le nombre de fois où on a dit, après une guerre, que ça serait la dernière, mais c'était la dernière jusqu'à la suivante. Et on l'a dit en sortant d'une guerre, on l'a dit de tout son cœur et de toutes ses tripes, mais ça ne marche pas. Le fait qu'il y ait des autorités politiques, que Dieu institue des autorités politiques, prend en compte cette réalité du mal. Et d'ailleurs, malgré ce qu'on a dit à une époque, il n'existe pas de société humaine qui ne comporte pas des autorités politiques qui gèrent la question du bien et du mal. À une époque, on parlait des bons sauvages qui n'avaient pas besoin de tout ça, mais on s'est rendu compte après que ça n'existait pas vraiment. Il faut des lois pour ordonner la vie collective, et il faut des autorités pour faire fonctionner ces lois en réprimant ceux qui refusent de s'y soumettre. Et donc, on peut dire que Romains 13 s'oppose à toute forme d'anarchisme. L'anarchisme estime que la société n'a pas besoin d'autorité et qu'elle peut s'organiser sur le principe de la juste répartition des biens et la libre coopération entre les personnes, et ça à tous les niveaux. C'est très beau sur le papier, ça n'a jamais marché nulle part. La foi chrétienne, à cause de la réalité du mal présent dans le monde, mais aussi en chacun, souligne la nécessité des lois et de lois contraignantes. Autre remarque, l'État et les autorités font partie de l'organisation du monde après la chute, quand la question du bien et du mal intervient dans la réalité de notre monde. Et quand au retour de Jésus, les croyants ressusciteront pour une vie nouvelle, qui ne sera plus parasité en profondeur par le péché, et que par la présence de l'Esprit, chacun spontanément obéira de tout son cœur à la volonté divine, il n'y aura sans doute pas d'autorité. On fonctionnera autrement. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Le fait que l'autorité est voulue par Dieu, instituée dans son principe par Dieu, ne signifie pas que l'autorité peut réclamer une obéissance absolue, comme on l'a déjà vu, ni que l'autorité peut se réclamer de Dieu pour obtenir cette obéissance absolue. Parce que les autorités elles-mêmes sont marquées par le péché. Comme on le voit dans l'ensemble de la Bible, Ancien et Nouveau Testament, y compris dans l'Église, et comme on le voit dans l'histoire humaine de toutes les époques. Là, je ne vous apprends rien, ben, je pense que l'autorité est aussi marquée par le péché. Notamment par l'abus de l'autorité, sous diverses formes, et la corruption. Ce sont les deux marqueurs les plus évidents du péché qui touche les autorités. Mais ces abus ne peuvent en aucun cas nous permettre de refuser le rôle des autorités et de nous dispenser de l'obéissance à laquelle Paul nous appelle. Dans la pensée biblique, il vaut mieux une autorité politique même corrompue que pas d'autorité du tout, et où chacun fait ce qu'il veut, et on s'entretue joyeusement au bout d'un moment. Autre remarque, l'obéissance aux autorités politiques ne peut pas être isolée de l'obéissance à Dieu. Comme le dit Paul lui-même au verset 7, « Rendez à chacun ce qui lui est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, la taxe à qui vous devez la taxe, la crainte à qui vous devez la crainte, et l'honneur à qui vous devez l'honneur. » Ou, pour citer Jésus, « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Mais le refus d'obéir aux autorités devrait être l'exception et non la norme. Si l'on se situe dans notre contexte, aujourd'hui, 21e siècle, en France, en Europe, il est possible qu'il y ait des domaines où nous allons peut-être désobéir aux autorités. Et je pense notamment à la relation aux étrangers. La relation aux étrangers dans notre pays va peut-être devenir un domaine où il faudra entrer en résistance face à de nouvelles lois. Il faut y penser. Il y a quelques années, un gouvernement français, dont j'ai oublié le Premier ministre, avait fait de l'aide aux étrangers un délit. Vous vous souvenez de ça? Un délit. Et des gens ont été arrêtés, ils ont été condamnés à des amendes, évidemment, etc. Puis une autre majorité a éliminé cette règle. Mais voilà, pour vous dire que. Donc, on ne sait pas où on va dans la société actuelle. Vous vous rendez bien compte que les choses changent très vite. Et donc, c'est important de réfléchir à ces questions-là et de réfléchir à ce que ce texte de Romains 13 peut nous dire, avec ce qu'il affirme fortement et aussi à ce qu'il ouvre comme possibilité de résistance. Pourquoi Paul écrit ces versets de Romains 13 ? Il est probable, même si on n'a pas de certitude, que Paul s'adresse à des chrétiens qu'on appellerait des spiritualistes, qui ont tendance à décoller de la réalité et à penser que les chrétiens n'ont pas besoin de se soumettre aux autorités. Et que, avec la foi, tout va aller tout seul. On trouve dans le Nouveau Testament d'autres traces de ce genre de spiritualisme, notamment sur la question du travail. Certains ont décidé de ne plus travailler. Jésus allait revenir bientôt. L'apôtre Paul est toujours assez sec dans ces cas-là. C'est là qu'il écrit en disant « Celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus. » Au moins, c'est clair. Et puis il y a aussi des gens qui ont dit « Mais moi je sers le Seigneur, j'ai pas le temps de m'occuper de ma famille. » Et l'apôtre leur dit « Celui qui s'occupe pas de sa famille et des siens est pire qu'un païen. » Blanc. L'apôtre Paul n'était pas avare de punchline, particulièrement forte. Et puis, aussi, parce que c'est pas pour rien qu'on parle de ça dans notre texte, certains ont sans doute dit « Franchement, nous, on est des chrétiens, on est des citoyens du royaume. Pourquoi on paierait l'impôt ?» C'est toujours un peu louche comme raisonnement, mais ça a été probablement le cas. C'est pour ça qu'on en parle ici, et que Jésus en parle aussi d'ailleurs. Est-ce qu'il faut payer l'impôt à César ? C'est une question qu'on a posée à Jésus. À l'époque de Jésus et de Paul, il y avait différents courants politiques et spirituels dans le judaïsme. Il y avait les Hérodiens, un parti très politisé, comme son nom l'indique, et un féodé au roi Hérode. À l'extrême opposé, il y avait les Zélotes, qui ne pouvaient pas admettre que la terre d'Israël, la terre sainte, soit occupée par des païens, et qui entraient en résistance violente, et que les Romains devaient appeler par un mot qui, aujourd'hui, se traduirait sûrement par terroriste. Leur foi aussi était centrée sur la vie politique, mais d'une autre manière. Il y avait les Sadducéens, on en a parlé dans un texte que Rachel a lu. Les Sadducéens sont à la fois des libéraux dans la foi, ils ne croient pas à la résurrection, ils ne croient pas aux miracles, à toutes ces histoires. Et par contre, ce en quoi ils croient, c'est le monde, le pouvoir, et ce sont des gens qui ont la maîtrise du culte, parce que la famille des grands prêtres était des Sadducéens. Et ils savaient bien négocier avec les Romains. Puis il y avait les pharisiens, centrés sur la fidélité à la loi, très engagés politiquement. Eux, ils attendent un messie politique qui libérerait Israël des occupants. Puis il y a un groupe dont le Nouveau Testament ne parle pas, mais dont on sait qu'il existait au temps de Jésus, qu'on appelle les Esséniens. Ceux dont on parle dans les manuscrits de la Mer Morte, pour ceux qui voient de quoi je parlais. On a découvert un certain nombre de textes. Je parle de ce groupe qui vivait à l'écart, dans le désert, dans une sorte de monastère, ils vivaient entre eux. Pour eux, le monde était trop malade, il était trop pourri, il n'y avait rien à faire dans ce monde-là. Il valait mieux le fuir pour ne pas être à son tour rendu malade, si vous voulez, pas être infecté à son tour. Donc ils se mettaient à l'écart. Et ils attendaient la destruction du monde actuel et le monde nouveau qui devait en surgir. Donc ce rapport entre politique et foi était assez compliqué, assez complexe. Et qu'est-ce qu'on peut en tirer par rapport à ce que dit à la fois Jésus mais aussi Paul dans notre texte? C'est sûr que l'expérience de la conversion et le fait de suivre Jésus arrachent les disciples à leur ancienne manière de vivre. Ils entrent et progressent plus ou moins difficilement dans une nouvelle manière de vivre, à la fois individuelle mais aussi en communauté. La communauté des disciples au temps de Jésus et l'Église ensuite. Ils ne partagent plus un certain nombre de valeurs dominantes de leur culture et de leur époque, mais Jésus les envoie dans le monde. Il les envoie dans le monde pour vivre dans la réalité de ce monde et aussi dans ses structures politiques et sociales. Car c'est en étant dans le monde qu'ils pourront être des témoins. Pour reprendre une image fameuse, c'est quand le sel sort de la salière qu'il peut faire son effet. Tant qu'on reste entre nous, bien planqué, dans la salière, il ne se passe rien. La foi, loin de nous éloigner de ceux qui ne croient pas, devrait nous rapprocher d'eux, devrait nous rendre plus solidaires d'eux, dans une démarche d'amour, de bienveillance, d'ouverture, même si on ne partage pas toute une série de choses de leur idée ou de leur attitude. Il n'est pas question de fuir en dehors du monde, mais d'y être pleinement présent, comme le levain dans la pâte, ou comme une lumière qui brille dans la nuit. Devant le mal présent de diverses manières dans le monde, et ça s'est pas mal accéléré ces 10 ou 15 dernières années, la tentation peut être grande pour nous de nous retirer à l'écart, de vivre entre nous, d'avoir des cultes sympas avec une bonne musique, une bonne ambiance, et de se désintéresser de tout ce qui n'est pas Église. C'est une tentation, et je pense qu'elle est très présente dans notre culture actuellement. Les textes dont Romains 13 nous exhortent et nous encouragent, au contraire, à vivre pleinement notre foi dans le monde tel qu'il est, pour y être témoin de Jésus. Amen.